Pascal, t'as dû voir ça dans l'actualité. C'est un procès que je veux suivre de très près. C'est Mathieu Martel, cet entraîneur de cheerleader qui est accusé d'agression sexuelle sur environ là, une dizaine de victimes.
Oui, c'est complètement atroce et horrible. On s'entend, on parle au conditionnel parce que c'est en cours en ce moment.
Exactement.
Mais ça va plus loin. Tu te rends compte qu'il y avait comme une certaine organisation, si je peux me permettre. Du moins, ça semble avoir été organisé à certains moments et avoir fait des victimes qui vont malheureusement être entachées par ces comportements-là tout au long de leur vie. Là.
Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a une plaignante qui raconte la présumée, justement, agression sexuelle qu'elle aurait vécu en disant que sa première relation sexuelle de sa vie a été un triple à trois avec son entraîneur de cheerleading, Mathieu Martel, et sa conjointe alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est un témoignage très difficile qu'elle livre à l'heure actuelle au Palais de justice de Québec. Et pour en parler avec nous, on a l'excellent journaliste du Journal de Québec, Pierre-Paul Biron. Pierre-Paul, merci beaucoup d'être présent pour nous aujourd'hui.
Salut Jeff, salut Pascal, avec grand plaisir.
Pierre-Paul, je comprenais, tu me marquais par écrit que la victime n'aura témoigné que 5 minutes aujourd'hui parce que c'est extrêmement difficile pour elle, la présumée victime, de venir exprimer ce qu'elle aurait vécu.
Oui, tout à fait. Son témoignage a débuté hier matin. Devait se poursuivre pour toute la journée. Puis finalement, hier, au retour de la pause du dîner, le procureur de la Couronne qui a indiqué au juge qu'elle était... tout simplement incapable de poursuivre son témoignage. On voyait hier matin que c'était difficile d'être accompagné d'un chien de soutien de la police. Toutes les mesures sont mises en place pour faciliter les choses, mais évidemment, les gestes qu'elle aurait vécu aux mains de Martel sur quand même quelques années, visiblement, ont laissé des marques d'une jeune femme qui semble effectivement traumatisée. On a pris une pause hier en après-midi. On a poursuivi avec d'autres témoins et tout ça. On a tenté d'accommoder un petit peu le tribunal pour poursuivre en disant ce matin, elle sera là. Vendredi matin, elle sera de retour pour poursuivre. Puis après 5-10 minutes ce matin, elle a immédiatement demandé au procureur de la Couronne une pause pour pouvoir lui jaser. Puis finalement, elle n'est jamais revenue à la barre. Le procureur, Philippe Desjardins, qui a expliqué que c'est très difficile de se replonger là-dedans. Ça venait brasser beaucoup de choses. Il faut savoir que ce procès-là, qui est prévu pour 4 semaines, il y aura une pause de 2 semaines. Donc, ça ne procédera pas la semaine prochaine et l'autre semaine suivante. Donc, ça faisait un bond dans le temps. Puis, elle a dit, bon, je préférais continuer en mars. Donc, on devrait reprendre son témoignage au retour au mois de mars. Mais les gestes qu'elle est venue raconter, ce qu'elle a eu le temps de raconter hier, comme tu disais, une première relation sexuelle à 14 ans qui se serait déroulée dans un trip à trois avec Martel, qui était son coach de cheerleading, et Amélie Dubé, qui était une autre de ses coachs, qui était la coloc de Martel, avec deux adultes qui étaient en position d'autorité face à elle. Puis Martel, il faut savoir que c'est un homme qui a presque 20 ans de plus que cette jeune femme-là. Donc, évidemment, des événements traumatisants qui sont terminés le lendemain avec une visite à la pharmacie, qui se seraient terminés le lendemain avec une visite à la pharmacie pour aller chercher la pilule du lendemain. Donc, oui, des choses pas faciles à entendre dans cette salle-là, cette semaine.
Comment ça se passe, Pierre-Paul? Toi, tu es journaliste depuis longtemps au Palais de justice, quand même, avec une certaine expérience. Dans la salle, qui est là? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi? Parce que ça reste assez particulier. On s'entend, c'est un homme de Québec qui était à Québec avec des victimes, des présumées victimes de Québec, les familles, etc. Comment ça se déroule? C'est quoi le non-verbal aussi de l'accusé?
C'est très particulier parce que c'est un dossier qui est extrêmement suivi. Il faut savoir que la communauté du cheerleading est un petit monde. C'est beaucoup de gens qui se connaissent et c'est quelque chose qui était marquant dans ce dossier-là. De la première comparution, les salles ont toujours été remplies parce qu'il y a plusieurs anciennes athlètes de Mathieu Martel qui viennent voir comment se passent les procédures, qui viennent supporter aussi les présumées victimes là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont été rencontrés dans ce dossier-là par les policiers, qui ont fourni des déclarations aux policiers sur ce qu'ils avaient vu, sans nécessairement être appelés à témoigner au procès. Il y a eu plusieurs déclarations. Et ce qui s'est passé après les premiers jours, ce qu'on voit, ce qui se décide un petit peu, c'est que la défense entend soulever le fait qu'il y a eu beaucoup de communication dans ce dossier-là, des gens qui se sont parlé, qui se sont donné des informations, qui on semble s'en aller un petit peu vers la défense de téléphone arabe, un petit peu de qu'est-ce qui aurait pu de versions qui auraient pu être fabriquées, tout ça. Donc, pour éviter quoi que ce soit face à l'intégrité du procès, le juge Charles-Olivier Gosselin qui a ordonné que toutes les personnes qui avaient fait des déclarations aux policiers dans ce dossier-là et donc qui sont potentiellement la cible d'être appelé à témoigner plus tard dans le procès, on les a exclus de la salle. Habituellement, un témoin qui a terminé son témoignage peut assister à la suite du procès, comme il pourrait y avoir des réinterrogatoires plus tard, lorsqu'on aura corroboré certains éléments à travers d'autres témoins. On pourrait demander à des gens de revenir dans la boîte, donc on a aussi exclu ces gens-là. Donc c'est un procès qui s'est débuté en 2007 avec une salle bien remplie, puis qui là se poursuit avec beaucoup moins de monde, parce que les gens qui étaient intéressés par le dossier, c'est les gens qu'on a exclus de la salle pour s'assurer de l'intégrité de ce processus-là, et du procès qui est quand même prévu pour 4 semaines, là. Donc c'est un procès quand même assez important. On parle de 11 plaignantes, plusieurs chefs d'accusation. Et comme on dit, c'est tous des gens qui se connaissent, donc on veut éviter que des gens qui pourraient être appelés à témoigner aient entendu d'autres choses dans le cadre du procès et tout ça. Donc on a, entre guillemets, fait un ménage sur qui peut assister à ce procès-là. C'est extrêmement tendu. Il y avait des proches de Mathieu Martel qui étaient là en début de semaine. Comme je dis, c'est un petit monde. C'est tous des gens qui se connaissent.
Est-ce que l'accusé est de glace dans le box des accusés, Pierre-Paul?
C'est un individu qui est très impliqué, je vous dirais, dans son procès. Il a demandé, et ça lui a été accordé là, par le juge, d'être démenotté dans le box. Donc, il a seulement les liens au pied pour lui permettre de prendre des notes. Et on le voit, il est très intéressé. Il prend beaucoup, beaucoup de notes lors des témoignages. Comme je l'ai dit, c'est des événements qui se sont déroulés. Les premiers événements là, qui lui sont reprochés remontent au début des années 2010 jusqu'au début des années 2020. Donc, c'est une période infractionnelle d'une dizaine d'années. Il y a beaucoup de corroboration à faire. Il y a beaucoup d'éléments, là, des vérifications qui peuvent être faites. Donc, on voit Martel très, très impliqué pour accompagner ses avocats, pour prendre une note à peu près tout ce qui se passe durant ce procès-là. On l'a pas entendu encore, évidemment, parce qu'on est dans la preuve de la couronne. Donc, premiers témoins sont ceux du ministère public. Éventuellement, on risque de l'entendre témoigner. La seule chose, on l'a entendu hier parce que ses avocats ont annoncé qu'il y aurait possiblement une requête pour la révision de son incarcération durant le procès, parce qu'il avait fait une enquête sur remise en liberté. Il avait fait une première demande de révision qui avait été rejetée, donc son emprisonnement était ordonné pour la durée des procédures. Mais là, ses avocats ont informé le tribunal que, selon eux, il y a des nouveaux éléments. Il faut savoir qu'il y a des plaignantes qui se sont retirées au début du dossier, là, que le ministère public a annoncé pas avoir de preuves à prononcer. On devait commencer à 13 plaignantes, on est descendu à 11. Donc, j'imagine que ça, pour la défense, c'est quelque chose qui pèse dans la balance. Martel a aussi été acquitté il y a une dizaine de jours en lien avec le dossier d'une première plaignante, qui est Amélie Dupé, qui est cette ancienne colocataire-là.
Ouais, ouais.
Il aurait agressé sexuellement à une fille de 14 ans dans la fameuse histoire du trip à 3. Mm-hmm. Amélie Dubé a été accusée pour cet événement-là. Elle a plaidé coupable, mais elle était aussi plaignante contre Mathieu Martel, et Martel a été acquitté des infractions qui la concernaient. Donc, je pense que la défense estime que le portrait a un peu changé. C'est peut-être un peu allégé. Puis, Martel a aussi annoncé avoir des garanties supplémentaires à soumettre. Donc, potentiellement que d'ici la fin du procès, il pourrait y avoir une requête pour qu'il soit libéré le temps que le juge Gosselin rende sa décision, parce qu'il est incarcéré, il faut savoir, depuis quand même 2023. Là. Donc, ça fait quand même un bon moment que Martel est derrière les barreaux de façon préventive. Là.
Pierre-Paul Biron, merci beaucoup pour cet excellent résumé de ce procès qu'on va suivre avec attention et au plaisir de se reparler.
C'est un grand plaisir, n'hésitez pas à vous.
Merci, salut Pierre-Paul. Salut. Pierre-Paul Biron, excellent journaliste, Journal de Québec sur les affaires judiciaires que vous pouvez lire à chaque jour dans le journal et surtout durant ce procès. On fait une courte pause à Boulevard 101 et par la suite, on va parler d'homophobie parce que, croyez-le ou non, on est en 2026 et Martin Francœur, chroniqueur pour le Nouvelliste au Coop de l'Information, s'est fait envoyer un texto sur « Les gays sont en train de nous envahir ». Pourquoi? Parce que Éric Duhaime et Charles Milliard, deux chefs de partis politiques, sont ouvertement homosexuels. On est en 2026.
Hier, j'entendais Denis dans son émission ici là,
ouais,
dire « D'après moi, il y en a qui sont retournés dans les vieilles affaires et ont décidé de rester collés ».
Ouais, et on va parler également avec le prof Duclos. Violence dans nos écoles, c'est le gros sujet de la semaine. Il y a eu une enquête qui a été faite par une étude qui a été déposée par la Fédération autonome de l'enseignement. On va parler de tout ça également avec Sylvain Duclos dans un instant à On en jase sur Boulevard 102.1.